France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
En ces temps troublés, nous avons cherché au téléphone sonne à changer de focale. Il n'est pas dit que vos réactions seront moins polémiques ce soir. Vous avez suivi sans doute ces derniers temps la tentative de mettre en place en France un janvier sec sur le modèle du Dry January des Britanniques, un mois de janvier où on prend le pari de ne pas boire. Un défi dont l'idée est de nous tester, chiche, ce qui permettrait de mesurer notre dépendance à tous, ou pas de dépendance du tout, de voir si on dort mieux, de voir si on le vit mal. Patatras, le gouvernement n'a pas suivi, il n'y aura pas de janvier sec ou de défi de janvier, en tout cas pas officiellement ni porté par les pouvoirs publics, mais les associations s'y tiennent et elles sont nombreuses. Tout ça est quand même intéressant et nous renvoie une fois de plus à notre relation à l'alcool, à cette idée chez nous, pays de vin, que le vin n'est pas vraiment un alcool et que s'en priver, c'est renoncer à un art de vivre à la française. Vous l'avez sans doute constaté dans les soirées, mais comment ça tu bois pas? Ben alors t'es pas drôle, c'est quoi ce puritanisme? T'es pas devenu vegan en plus? C'est compliqué pour nous d'admettre que l'alcool festif c'est une chose, mais que l'alcool est aussi une maladie, que la dépendance à l'alcool est une maladie, que 42 000 personnes en meurent chaque année. J'entends ici, c'est pas avec un Romané Conti qu'on se met minable, évidemment. Mais faut-il pour autant oublier un défi, du moins sans alcool? Est-ce que vous êtes chiche? On veut vous entendre là-dessus, allez-y, comme vous en avez l'habitude désormais, vos appels et vos mails sont lus à l'antenne et on est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, juste avant de vous présenter nos invités, je voudrais lire le message de Thierry Desauve qui se décrit lui-même comme un amateur de vin, qui est même un expert puisque c'est son métier. Et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit: pour apprécier un très bon vin, il faut de la sobriété parce que si on boit trop, tous les vins se ressemblent. Et pour apprécier un bon vin, il faut quand même le goûter parce que si on ne le boit pas, on n'a pas accès à la civilisation du vin. Donc sobriété, oui. Abstinence, non, ça ne sert à rien. En plus, ce qui dit abstinence dit ce que ça donne en Angleterre, c'est-à-dire que ça amène à une mégamurge le 1er février, ce qui n'est donc pas forcément l'exemple qu'on souhaite vivre en France. Il y a beaucoup de choses dans ce message qui permettra à nos invités de réagir. Bonsoir à vous,
bonsoir,
Michel Reynaud.
On saute sur notre chaise.
Mais oui, je vous vois sauter, Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, et bonsoir à Michel Reynaud aussi,
bonsoir.
Psychiatre addictologue, président du fonds Action Addiction. Il y a beaucoup de choses dans le message de Thierry Desauve, parce qu'on est pile dans le sujet, au fond, on a l'impression, dès qu'on nous dit d'arrêter de boire, qu'il y a une injonction d'interdiction. Est-ce que c'est ça que ça veut dire,
mais
ce mois
pas.
De janvier sec?
Non, mais évidemment pas. Le janvier sans alcool, le dry January, c'est une façon de tester sa capacité de maîtrise, de contrôle. C'est retrouver un certain nombre de bienfaits à diminuer sa consommation. Et c'est, me semble-t-il, sous-jacent et extrêmement important, la possibilité de percevoir la force de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on est obligé de boire. On est dans une société où on ne peut pas être à table à midi, à table le soir, dans un restaurant, dans un bar, dans une soirée, sans passer pour quelqu'un d'anormal lorsqu'on ne boit pas. Il faut s'expliquer. On ne s'explique pas pour quand on ne prend pas une cigarette maintenant. Pour l'alcool, il faut expliquer et s'excuser. Et ça, c'est un monde qu'on nous a construit, et je pense que les alcooliers y sont pour beaucoup, avec le mythe du bon vivant, bon buveur. C'est vrai qu'un grand Bourgogne, un grand Bordeaux, c'est un grand plaisir, mais c'est pas cela qui nous inquiète. C'est les quantités massives de vin peu cher. Et derrière le plaisir que nous avons tous à ces grandes et belles consommations, c'est une façon de vendre beaucoup de vin et beaucoup d'alcool, et des alcools pas chers. Donc on mélange, et il mélange deux choses, la consommation de plaisir, de fête, de convivialité que nous aimons tous, et derrière l'incitation à boire et à boire beaucoup. On rappelle sans arrêt que 20% des Français achètent 80% de l'alcool. L'industrie de l'alcool vit sur les gros buveurs, les consommateurs excessifs, les consommateurs à risque, les consommateurs dépendants. Et donc il faut faire comme si cela était la norme. Et on nous a mis en tête que on avait cette norme. Le mois de janvier, le dry January, est une façon de percevoir qu'il peut y avoir une autre norme.
J'ai cette question de Charles de Finistère à Axel Kahn qui dit: je bois deux verres par jour en dînant et je ne me considère pas comme alcoolique. Pour moi, le vin accompagne un bon repas, c'est un moment de convivialité. Vient la question: à partir de quel moment peut-on dire qu'il y a un risque? À partir de combien de verres par jour est-on dépendant?
En réalité, lorsque l'on on étudie effectivement, par exemple, la cancérogénicité, le risque de cancer. Je suis particulièrement focalisé sur le risque de cancer en tant que président de la Ligue nationale contre le cancer. Il n'y a pas vraiment d'effet de seuil. C'est-à-dire que il y a toujours un petit risque de boire un tout petit peu. Cela étant dit, je vais vous dire la vérité, moi-même, je ne suis pas du tout abstinent.
Bien sûr.
Parce que en permanence, il y a dans la vie un compromis, qui est un compromis entre la santé, les exigences santé, et puis le compromis entre la liberté de connaître le plaisir, différents types de plaisir. Et le plaisir de la table, le plaisir de la bonne chère, le plaisir d'un très bon vin, ça fait réellement partie des plaisirs. La raison pour laquelle la Ligue est très intéressée par cette opération du Dry January, c'est-à-dire du défi de janvier, comme on dit.
On appelle ça le défi de janvier.
C'est qu'en réalité, c'est vraiment le bon terme. Ça n'est évidemment pas une campagne pour l'abstinence. Ça n'est pas du tout une interdiction de boire. Nous sommes, j'imagine, Michel Reynaud et moi, aussi des enfants de ce pays qui est un pays de la culture de la vigne. C'est un pays méditerranéen de la culture de la vigne.
Notre ami parlait de civilisation du vin.
Voilà,
même.
De la civilisation.
Mais c'est vrai.
Et nous l'assumons. Mais voyez-vous... On vient des fêtes. Et pendant les fêtes, on dit rien. Pendant les fêtes, on fait comme on fait d'habitude pour faire des fêtes. Et moi, je vais boire du champagne. Je vais boire des bons vins. Il n'y a strictement aucun problème.
Pour
et
vous,
puis là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au 2-3 janvier, simplement, on va se tester et on va essayer de regarder comment on peut exprimer sa liberté. Et c'est quoi la liberté? La liberté est de n'être pas dépendant. Alors, on peut ne pas le faire. Mais je dis, c'est intéressant de regarder si effectivement, on arrive à relever le défi de ne pas boire jusqu'au 31 janvier, et après, on fait la différence. Comment j'étais après ces 15 jours de libation, et moi aussi, je vais certainement connaître des bons moments, et comment je suis après cette période où, effectivement, j'ai relevé ce défi. Mais on va le faire tout à fait gaiement, dans la joie, pour être libre.
Qu'est-ce qu'on découvre de soi? Allez-y, Michel.
Ce que disait votre auditeur, à 2 verres par jour, il y a très peu de problèmes. Le risque augmente et elle augmente de façon exponentielle à partir de 3, 4, 5, 10 verres. Tous les risques, les risques de violence, d'accident, de cancer, de démence, de dépendance, c'est dans les fortes consommations. Mais on sait que les 3/4 des Français boivent en dessous de ces repères de santé publique, ce que dit ce monsieur, 2 verres ou un peu moins. Les risques sont parfaitement acceptables. Le problème, c'est les 25% qui consomment beaucoup plus et dont je disais tout à l'heure qui font l'essentiel des achats d'alcool. Et donc, il y a le trouble est entretenu exprès, mais on parle pas. Enfin, nous ne parlons pas de la même chose. Nous aimons les bons vins, nous aimons les bons alcools, nous aimons les moments de convivialité, ceci ne doit pas inciter à avoir comme modèle la surconsommation sous prétexte de bon vivant.
Voici une question de Didier qui est à Nogent-sur-Marne. Qu'est-ce qu'on découvre de soi quand on cesse de boire pendant un mois? Qu'est-ce qu'on retrouve? Vous savez, on dit toujours aux fumeurs, quand ils arrêtent, tu vas retrouver le goût, tu vas retrouver l'odorat, etc.
Il y a plusieurs éléments, je crois. La première chose, il y a des éléments physiques sur lesquels on va donner quelques détails. Mais la première chose qui est très très importante, c'est ce que l'on retrouve, c'est soi-même comme un être libre qui, s'il décide de n'être pas dépendant, est indépendant. Et par conséquent, qui a les éléments d'un choix. Dans peu de temps, j'ai connu 2 expériences. Une expérience festive traditionnelle, extrêmement alcoolisée, et une expérience qui sera aussi festive, on va pas faire la gueule pendant un mois, qui sera également festive, mais qui effectivement n'utilisera pas l'alcool. Alors, j'en tirerai 2 éléments. D'abord, j'ai lancé le défi, j'en ai été capable. Donc, j'étais pas dépendant. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi de n'être pas dépendant de quoi que ce soit. De quoi que ce soit, de quelqu'un ou bien de quelque chose. Deuxièmement, je ferai la différence. Comment je me sens? Est-ce que je dors mieux? Est-ce que j'ai moins de cauchemars? Est-ce que je retrouve mieux le goût au sport? Est-ce que je suis moins irritable? Et par conséquent, si j'ai à prendre une décision, il faut que la décision soit informée. Comment voulez-vous prendre une décision informée si vous n'avez pas les éléments objectifs Comment suis-je après avoir bu pas mal et comment suis-je après avoir bu quasiment pas pendant quelques jours, pendant à peu près un mois? Ça, c'est important. C'est vraiment la gaieté dans la liberté. C'est ce qu'on promeut.
Cette question qui vient d'Étienne de Lille, est-ce que la multiplication des happy hours, des after work avec de l'alcool, des cocktails, des bières qui sont moins chères, a fait augmenter la consommation, notamment chez les jeunes?
Ah oui, ça.
Michel Reynaud.
Oui, il n'y a aucun doute. C'est, et on en parlait tout à l'heure avec Axel Kahn, c'est un des problèmes majeurs.
Désormais, les petits cocktails tout faits, etc.
Les alcools sucrés qui sont une façon d'amener les plus jeunes à boire, et après, tous ces alcools pas chers. La bière auquel tu tiens particulièrement, mais les whisky, les gins, les vodkas de mauvaise qualité mélangés avec du sucre, les vins, les rosés pamplemousse, les rosés sucrés, qui sont aussi une façon de faire boire les femmes et les jeunes. Oui, la stratégie est allée dans ce sens-là. Je voudrais reprendre ce que disait Axel Kahn tout à l'heure. Ce que l'on sait, c'est effectivement, on perd un peu de poids, on dort mieux, on maigrit et on se sent effectivement, et c'est sûrement le plus important, fier d'avoir réussi. Et si on a des difficultés, on peut s'interroger sans attendre d'être dans une situation de dépendance grave. On se rend compte que c'est pas si simple que ça. Alors, soit c'est pas si simple que ça, et à ce moment-là, on peut demander de l'aide, soit c'est un peu difficile parce qu'il y a une pression sociale. Et on se rend compte de cette pression sociale et on essaye de trouver la manière dont on peut l'éviter. Donc, c'est globalement bénéfique, et ça l'est d'autant plus qu'à 6 mois, je rappelle qu'il y a 14 pays dans le monde qui ont lancé depuis des années
ce Dry January,
que tous arrivent au même résultat, et que on considère que quand quelqu'un a tenu pendant ce mois, à 6 mois, statistiquement, il boit un verre de moins, ils étaient à 3-4 verres par jour, ils descendent à 2-3 en moyenne, c'est-à-dire à des consommations qui sont des risques tout à fait acceptables.
Je voudrais revenir, à ce problème de l'alcoolisation festive, parce que cela me désole, me désespère même. Je ne suis plus un perdreau de l'année, je vais très bien, merci, mais quand j'avais 30 ans, on va dire, j'étais jeune médecin, je voyais l'alcoolisme décliner, l'alcoolisme social, économique, persister, mais décliner progressivement, et j'étais à peu près sûr, en extrapolant, que je serais sans doute encore vivant pour voir l'alcoolisme n'être plus un fléau social. Or, l'alcoolisme reste un fléau social. Et la raison majeure pour laquelle l'alcoolisme reste un fléau social, c'est que, à cause du mode de promotion qui a été proposé par les alcooliers, la diminution de l'alcoolisme classique, social et économique a été remplacée par l'alcoolisation massive, festive des jeunes. Et moi, le président d'université, l'ancien président d'université, et d'une université extrêmement bourgeoise, du boulevard Saint-Germain, eh bien, j'ai constaté ces alcoolisations absolument massives.
Boulevard Saint-Germain.
Ah oui, vraiment. Même là, pareil, il n'y a pas qu'à Rennes, il ne faut pas croire. Ces alcoolisations absolument massives, et le produit qui est utilisé, le fait qu'il soit utilisé dans ces conditions est un véritable scandale. C'est un scandale. C'est-à-dire que la France, qui est un grand pays de santé publique, laisse vendre des canettes de bière avec de l'alcool qui équivaut à l'alcool d'une bouteille de vin, qu'on boit forcément, parce qu'une fois qu'on a ouvert l'opercule, on est obligé de boire jusqu'à la lie, en quelque sorte, pour à peine plus de 2 euros. C'est un scandale. C'est un scandale qu'on ne fasse rien là-dessus. Et qu'on n'ait rien fait lors de la dernière loi sur le budget de la sécurité sociale, me désespère et m'indigne.
Eh bien, voici une question qui est aussi pour vous. Elle vient de Nicole, qui est prof de SVT et qui dit, dans les livres, il y a beaucoup d'exercices sur la fermentation, etc. On parle d'alcool, mais sans faire de prévention. On fait de la prévention tabac quand on évoque les poumons, mais rien sur l'alcool. Et je ne le comprends pas.
Alors, vous avez raison. Pour la raison que nous avons dite et dans laquelle nous sommes inscrits, c'est-à-dire que nous sommes un grand pays de la culture de la vigne, de la culture du vin, de la civilisation du vin, c'est un secteur d'un poids économique considérable qui a certaines amitiés de la part aujourd'hui de nos gouvernants. Il y a un trou noir de la santé publique et l'alcool. Un véritable trou noir de la santé publique. Le désintérêt.
Mais parce qu'on est pays de vin,
Dès que l'on parle de
le
prévention.
Le vin n'est pas un alcool, je crois que c'est le ministre de l'Agriculture.
Le vin n'est pas un alcool. Mais
comme les autres.
Les gens, vous voyez, moi j'ai pas parlé avant tout du vin, on a dit qu'on buvait du bon vin, etc., etc. Mais les viticulteurs, surtout les alcooliers, ceux qui vendent du vin, se sentent immédiatement agressés et participent à une espèce d'oukase qui interdit pratiquement. Que voulez-vous? Moi, je suis président de la Ligue nationale contre le cancer. Madame Synthèse, je fais mon job. C'est la deuxième cause de cancer évitable, l'alcool. Comment voulez-vous que j'accepte qu'il y ait cette démotivation totale, ce désarmement des activités de santé publique pour ce qui est de l'alcool et qui, évidemment, outre les 16 000 cancers, crée à côté près de 30 000 morts par de violences, de viols, de femmes tuées, de femmes battues. C'est un fléau. L'alcool est un fléau, naturellement.
Allez-y, M. Reynaud, après on passera à notre question.
Je crois qu'il y a une chose que les Français doivent bien comprendre. Le côté plaisant de l'alcool, et en particulier du vin, est extrêmement mis en valeur. Et tous les dommages ne sont pas rassemblés, ne sont pas visibles. Il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir quelques notions sur le niveau des consommations d'alcool dans les hôpitaux. Enfin, le nombre de malades liés à l'alcool dans les hôpitaux. Le système d'information n'était pas construit pour ça. Le système d'information n'est pas construit non plus pour qu'on repère les dommages sociaux liés à l'alcool, les viols, les violences aux femmes, les violences aux enfants. Il a fallu qu'on se batte pour réussir à obtenir que dans le Grenelle des violences conjugales soit reconnu et qu'on commence à prendre quelques mesures vis-à-vis de celui, enfin de l'agresseur qui, dans pas loin, un cas sur deux, consomme de l'alcool ou des psychotropes. Donc il y a l'alcool est sûrement le plus sympathique des psychotropes, sûrement le plus intelligent et le plus festif, en particulier pour le vin. Mais c'est aussi
festif. Intelligent, c'est un autre problème. Le plus festif.
Enfin subtil. Non, subtil. J'aurais dû dire subtil. Mais c'est en même temps et de loin le plus dangereux. Et ce que moi je souhaiterais faire passer, c'est que c'est pas un produit anodin. Et lorsqu'on le consomme, on doit avoir en tête que c'est un produit potentiellement dangereux. Et ça revient à la question posée. Ceci n'est pas appris aux enfants. Et quand on entend que la viticulture a demandé à faire la prévention et que faire la prévention, c'est expliquer la culture de la vigne, la fabrication du vin, les plaisirs et la place de cette culture, et en rien tous les dommages qu'on vient dénoncer, il y a une façon de présenter les choses qui est injuste, anormal, inacceptable.
Et justement, il y a cette question de Patrick Amulos qui dit « Je me demande ce qui motive la différence de traitement du gouvernement entre l'alcool et le tabac. Pourquoi il y a une si grande différence ?»
Tout simplement, mais ça nous l'avons dit, c'est que les intérêts économiques, on ne cultive plus de tabac en France. Oui. Et donc, pour la France, le poids économique du tabac est le poids des cigarettiers. Mais il n'y a plus de grands cigarettiers français.
Non, c'est
et
fini.
Par conséquent, l'intérêt de l'État pour le tabac, ce sont les taxes. Mais comme une des mesures qui est d'ailleurs efficace pour lutter contre le tabac et d'augmenter les taxes, d'une certaine manière, on peut le faire. Il y a une vraie politique de limitation du risque de tabac en France. Mmh. Il n'y a rien d'équivalent. Pour ce qui est de l'alcool, il y a une exception, il faut être franc, qui est la diminution de la dangerosité de l'alcool au volant. Ouais. Là, oui, vraiment, il y a un effet. Mais pour ce qui est de l'alcool qui entraîne ce dont on a parlé, mais je crois qu'il faut mettre d'un côté la fête à laquelle nous participons. Et puis, de l'autre côté, il faut mettre les filles violées. Il faut mettre les femmes battues, il faut mettre les femmes tuées, dans lesquelles l'alcool joue un rôle considérable. Il faut mettre aussi, excusez-moi, parce que ça c'est terrible, il faut mettre les jeunes qui le vendredi soir, le samedi soir, rentrent de boîte et terminent leur jeune vie contre un arbre à 2h du matin. Il y en a pratiquement tous les week-ends. Ça c'est l'alcool. On ne peut pas oublier cela,
Est-ce que vous préconiseriez, j'entends ici hurler derrière le poste, mais est-ce que vous préconiseriez qu'il y ait, notamment sur les étiquettes, sur les bouteilles, sur certaines, les mêmes genres de recommandations qu'on peut trouver sur les paquets de cigarettes. Il y en a une de recommandation, autant que je sache, sur les bouteilles qui parle des femmes enceintes.
Oui, alors, c'est un des scandales. Il a fallu des années pour faire passer ça. Ça a été nié très longtemps, le risque de la grossesse. Il y a un tout petit pictogramme qui n'est pas visible et repérable. La seule chose qui avait été obtenue dans la prévention, dans ce gouvernement, c'était de mettre un pictogramme visible. Et ça fait 2 ans que la décision a été prise. Et pour des tas de raisons, il y a le blocage est tel qu'on ne l'a toujours pas. Les viticulteurs, enfin la viticulture dit c'est mortifère, ça donne une image négative. Alors moi, C'est les Français qui me préoccupent, et donc il me semble que les Français doivent être informés des risques. Mmh. Des plaisirs, ils les verront, ils les entendent, ils doivent être informés des risques. Ce qui se passe à l'étranger, parce que ce qu'ils disent, on ne peut pas mettre ça sur nos vins à l'étranger, alors que les Italiens ou les Espagnols ne le font pas, ou les Australiens. Il y a sûrement là des choses à équilibrer. Néanmoins, il me semble qu'en France, le travail à faire, c'est d'informer sur les dangers, en même temps que sur les plaisirs.
Maxime est à Sainte-Maxime, on l'a, Maxime, merci beaucoup. Le mois de janvier sans alcool est une invention britannique, nous dit-il. Les Britanniques ne boivent pas du tout comme nous, ils ont des habitudes de pub, des habitudes notamment et principalement de week-end, et surtout de très grosses quantités. Notre façon de faire est très différente. Est-ce que l'efficacité de ce mois britannique pourrait réellement être la même avec notre mois français ?
C'est la raison pour laquelle le message et la manière dont nous présentons ce mois de janvier, le défi de janvier, est différent de la manière dont les Britanniques le présentent. Nous indiquons que nous intégrons dans cette culture de ce vin, de cet alcool, qui est un élément du plaisir. Il faut que l'on sache apprécier quel est le risque qui est lié au plaisir. Mais on a l'habitude. Il y a de nombreux plaisirs, je ne vais pas vous les citer, dont on sait très bien qu'ils comportent un certain risque. Et on est au courant de ce risque. Pour quelle raison ce plaisir-là, qui est réel, il n'y a aucun problème, ne serait-il pas informé ? Pour quelle raison n'aurait-on pas la possibilité, nous-mêmes, de se tester par rapport à la capacité de le modérer ? Et donc, nous sommes vraiment dans cette vision-là. Oui, on fait la fête avec le vin, les fêtes, et puis on peut faire la fête sans... Et on peut apprécier par conséquent quelle conduite nous voulons librement adopter pour la suite. C'est ça, la volonté, la liberté et l'échappement à tout mécanisme d'addiction.
Pierre est un barman, il a même un café-bar qui est à lui depuis 20 ans. Entre 30 et 45 ans, nous dit-il, et j'en ai 52 aujourd'hui, j'ai fait la fête au moins 4 fois par semaine et je me portais comme un charme. Depuis 7 ans, je ne bois plus que de l'alcool fermenté. Lorsque je rebois de l'alcool distillé, le lendemain, je me demande vraiment comment je faisais avant et je me porte parfaitement bien. Moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Pierre, alors d'abord, c'est que en vieillissant, on vit les choses très différemment. Oui. Et après, il y a d'autres questions dans ce sens-là. Quand on est dans un bar, c'est ce que vous disiez au début, Michel Reynaud, et qu'on demande autre chose que de l'alcool, en général, c'est un soda, c'est super sucré. Le choix qui s'offre, au fond, si on refuse l'alcool, est très réduit.
C'est pas sympathique, effectivement. Alors qu'il y a des cocktails de jus de fruits variés, avec des goûts sympathiques, il pourrait y avoir une présentation des boissons non alcoolisées. On espère qu'un certain nombre de bars s'en saisiront. En Angleterre, ils le font, hein. C'est-à-dire qu'ils ont à ce moment-là une offre de consommation différente, et on pourrait montrer qu'il peut être agréable et pas plus coûteux, parce que le moins cher, c'est effectivement la bière ou le ballon de rouge. Même l'eau minérale est plus chère. Donc il y a là un équilibre à trouver qui puisse rendre agréable la consommation d'autre chose que l'alcool. Après, si on ne se tue pas pendant sa jeunesse lorsqu'on consomme trop d'alcool, par exemple, on découvre en ce moment que les accidents de trottinette, dans un cas sur deux la nuit, l'alcool est présent. Et compris pour les décès. Donc, si on ne se tue pas, on vieillit et les effets de l'alcool, souvent de l'alcool et du tabac, apparaissent vers 50-60 ans. Et on perd de 10 à 15 années de vie et on termine de façon beaucoup moins agréable. Mais tout ça, c'est pas perceptible quand on a 20-25 ans.
On ne peut pas parler non plus uniquement comme l'a fait votre auditeur barman, parce que prenons le tabac. Le tabac, c'est terrible. Il y a pratiquement une personne sur deux qui fume beaucoup, qui en meurt. C'est considérable. Mais ça veut dire qu'il y en a une sur deux qui n'en meurt pas. Et mettre en exergue les gens qui, effectivement, j'en connais, qui ont fumé comme des pompiers ou des pompières et qui, à 80 ans, vont bien, ça n'enlève pas cette réalité que le tabac a tué, depuis qu'on sait que le tabac est dangereux, 500 millions de personnes dans le monde.
Imaginez, hein. Un cancer, une bronchite chronique, une insuffisance respiratoire, un accident vasculaire cérébral, un infarctus, c'est terrible. sauf que ça n'apparaît que vers 50, 60 ans, et que quand on a 20, 30 ans, on ne se rend pas compte. Mais et nous, on récupère en bout de course ces souffrances.
Patrice voudrait des précisions. Y a-t-il des études sur la consommation moyenne des Français? 2 verres par jour, dit-il, ça m'étonne. Est-ce qu'on est en augmentation? Est-ce qu'on est en baisse? Où est-ce qu'on en est, nous, dans notre consommation? Et surtout par rapport à nos voisins?
Alors, au fond. On est en baisse. Le vin a très clairement diminué. Mais on est.
Mais la bière augmente.
Mais on est resté, on est placé 3e pays parmi les pays d'Europe et les pays gros consommateurs. On est un des pays les plus gros consommateurs et on regagne des parts, si j'ose dire, et on remonte petit à petit dans ce classement. Et pourtant, je rappelle que les 3/4 des Français sont à 2 verres par jour ou moins. Donc ces consommations-là ne posent pas de problème. Ce sont les autres consommations. Et donc les 20-25% qui sont à 5, 10, 15, 20 verres par jour. Il y a une grande partie de la population française qui boit à très faible risque.
La moyenne de consommation d'alcool en France, c'est à peu près 11 litres d'alcool pur par an et par français. Mais si on considère qu'il n'y en a que 1 sur 5...
11 litres d'alcool pur ?
Si on considère qu'il n'y a que 1 sur 5, à peu près ça, oui.
Oui.
Si on considère
nous met en 3e position dans le monde.
Si vous considérez qu'il y en a 1 sur 5 qui boit, ça veut dire qu'il y en a qui boivent l'équivalent de 55 litres d'alcool pur. Il faut voir ce que ce peut être. Évidemment que c'est terriblement toxique. C'est non seulement toxique pour soi, mais c'est toxique pour les autres. C'est toxique pour la société. Alors, cela n'est absolument pas écarté le caractère ludique et agréable et de plaisir de l'alcool. Mais on ne peut pas adopter simplement un plaisir dans l'ignorance et dans l'insouciance, dans l'inconscience. Nous, on dit, il faut être conscient. Et un des moyens de prendre conscience, c'est on se lance ce défi en rigolant et on le gagne.
On va y revenir, c'est ce qu'il faut faire. Les 11 litres dont parle Axel, ça équivaut à peu près à 3 verres par jour en moyenne. On discute entre 2, 7 et 3. 3 verres par jour en moyenne. Mais pour quelqu'un, l'immense majorité des Français qui boivent 1 ou 2 verres, il faut 10 Français qui boivent 1 verre pour 1 Français qui boit 10 verres. Et là, avec ce Français qui boit 10 verres et les 10 qui boivent 1 verre, on arrive à une moyenne de 2. Et donc, ce que l'on dit à peu près 3 verres par jour, la grande majorité des Français est à 2 verres ou moins, et il y a une petite partie qui est celle qui est à 5, 10 fois plus, 10, 15 verres, et c'est là qu'il faut agir.
On a cet auditeur qui nous dit « J'ai travaillé pendant 7 ans aux urgences, j'ai vu les ravages de l'alcool. Peut-être faut-il rappeler aux gens le coût à la société, donc aux contribuables de l'alcoolisme, et même pour un week-end. » Ça se chiffre facilement, ça? On sait le chiffrer, Michel Reynaud ou Axel Kahn, ou pas?
Oui,
ça
dit quoi ? C'est 120 milliards, comme pour le tabac, mais pour le tabac, c'est majoritairement des dommages sanitaires. Pour l'alcool, c'est des dommages sanitaires pour un tiers, mais des dommages sociaux pour deux tiers. Les incapacités de travail, les difficultés personnelles, et puis évidemment toutes les violences et incapacités mentales. Donc ça, c'est la et ça, on aboutit à 120 milliards, 120 pour l'alcool et le tabac. On est à 2-3% du produit intérieur brut. Mmh. Et les taxes sont dont se plaignent les alcooliers et les cigarettiers ne couvrent que à peine la moitié des coûts sanitaires, enfin des coûts pour soigner. Je parle pas des arrêts de travail et tout ça. Et donc on est si on voulait avoir une politique efficace économiquement, on diminuerait, ça rapporterait énormément d'argent.
Allez-y, Axel.
Je voudrais rajouter un point, on n'en a pas encore parlé, mais c'est assez redoutable quand on y pense. On connaît le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui sont, lorsque les mères boivent, des syndromes malformatifs extrêmement graves, avec retard mental, malformations multiples, etc. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. On considère aujourd'hui que 1% des enfants ont des troubles de développement cognitif avec des difficultés scolaires, des comportements anormaux, déviants, liés à l'alcoolisme pendant la grossesse. Comme il y a environ 700 000 naissances en France tous les ans, ça veut dire qu'il y a 7 000 enfants qui naissent tous les ans avec des troubles du développement cognitif et des difficultés dans leur sociabilisation, dans leur scolarisation, qui est liée au fait que les femmes buvaient. Et quand les gynécologues essayent de savoir ce qui se passait, je reviens, c'est une marotte, c'est vrai, mais je reviens un peu à cela, il arrive assez souvent qu'elles disent « Mais moi non, je ne buvais pas. Oh, si de la bière. » Voilà. Oh, si de la bière. Qui est l'alcool qui augmente, dont la consommation augmente à l'heure actuelle en France.
Et alors, du coup, puisqu'on est sur ce sujet, Axel Kahn, qu'est-ce qu'on dit aux femmes enceintes? Est-ce qu'on dit zéro verre, zéro
Non, aux femmes enceintes, c'est zéro verre. Voilà. C'est clair, aux femmes enceintes, on dit zéro verre.
Alors, on va même être
avant la grossesse.
Voilà. On y pense, pas lorsqu'on est à 2-3 mois voilà. Et qu'on se rend compte. Si on a une envie de bébé, eh ben, on arrête de boire. Et même, on demande à son conjoint de nous aider et d'arrêter parallèlement. Ouais. Pour deux raisons. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aide. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets sur les spermatozoïdes et que ça augmentait un certain nombre de pathologies.
L'autre raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que, enfin, souvenez-vous, il y a encore quelques années, on nous mettait à la télé des médecins qui disaient « Ah, un bon petit verre, ça a toujours été bon pour l'organisme, etc. » Je peux comprendre que les gens soient un peu perdus là-dedans.
Mais pour les femmes
en fait.
Enceintes, moi je vais être violent, je ne suis pas violent, je suis plutôt un homme gentil, mais là je vais être violent. Sachant le risque que prennent les enfants c'est les enfants, mais c'est quelqu'un d'autre. Boire alors qu'on porte un enfant, c'est une saloperie. Honnêtement. Mais c'est vraiment une saloperie.
Oui, c'est vrai. Mais ça ne se savait pas. Jusqu'à il y a relativement
ça ne se savait
peu
pas.
De temps.
Mais maintenant qu'on le sait.
Il y avait une tolérance.
En toute connaissance de
voilà.
cause.
Et donc, et en plus, ceux qui boivent, l'alcool reprogramme le cerveau pour qu'on justifie ses comportements. Et plus on est dépendant, plus on considère qu'on boit comme tout le monde. Mais, ceci posé, les femmes n'étaient pas poussées à ne pas boire, au contraire. Et donc il y a effectivement là quelque chose. On va peut-être pas passer trop de temps sur les dommages. On en a beaucoup parlé, mais plutôt sur
l'avantage de passer un mois sans boire.
L'avantage, c'est ce que je reprends vraiment ce que dit Axel Kahn, c'est d'être fier de soi, de s'être prouvé qu'on pouvait le faire, de s'être prouvé qu'on était libre, et on se rendra compte en plus de tous les petits bénéfices que l'on en retire.
Alors, c'est quoi les petits bénéfices? Alors, au chapitre des petits bénéfices, qu'est-ce que vous mettez dans le top 5?
Dans le top 5, on dort mieux, on perd du poids, on est plus détendu, moins tendu,
moins agressif. Du coup, on peut en profiter pour arrêter de fumer, comme ça, si on perd du poids en arrêtant de boire, voilà. On pourra le gagner en arrêtant de fumer.
En général, les deux, les deux vont souvent ensemble. Et c'est plus simple d'arrêter les deux, dit-on maintenant.
Mais vous disiez tout à l'heure que dans les 8 mois qui suivent, en fait, on sent quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'on change, au fond. Il suffit d'un mois. C'est pas le cas avec la cigarette, c'est plus compliqué.
Mois. La cigarette, on prône l'abstinence. Et le mois sans tabac, c'est pour amener les gens
exactement.
À arrêter.
Mais
parce que la cigarette tue un sur deux, et rend très dépendant. Ça n'est pas le cas de l'alcool.
Exactement, et la vraie différence aussi, c'est qu'on n'a plus le droit à une, alors que là, on peut avoir droit à un verre de temps en temps, effectivement, celui du plaisir. Vous disiez qu'on perd de la consommation, en fait, dans les 8 mois qui viennent. Comment ça se calcule, ça?
Je crois que le phénomène qui est important, c'est que avant que de gagner ce défi, avant d'oser, chiche, on se lance ce défi. Et puis on le gagne. Entre le 3 et le 31 janvier, on n'a pas bu d'alcool. Immédiatement, on se rend compte que même si on veut se faire plaisir, faire des repas familiaux, des repas entre copains qui vont être un peu arrosés, on se rend compte que ça n'est pas une nécessité. On se rend compte que ça n'a pas été triste, on n'a pas été sinistre. Nous, notre défi, on travaille beaucoup avec des étudiants, avec notamment le syndicat Lafage, mais d'autres groupes de jeunes qui disent, sans alcool, on peut également faire la fête. L'idée que la fête est synonyme de l'alcool est une fausse idée. C'est une idée mortifère. Et quand cette fête-là, les conséquences, on ne va pas les rappeler, que l'on a dit tout à l'heure, c'est le contraire de la fête. Une fête, elle est gaie, elle est pleine de santé, elle est de garçons et de filles qui ne se tapent pas dessus, qui ne se violent pas, c'est ça la fête. Et donc, l'idée, c'est au mois de janvier, on continue de faire la fête, et on fait la fête autrement.
Et on a donc perçu... On a perçu tous les moments où on est incité à boire. Je l'ai fait l'an dernier et c'était difficile. Et quand je ne disais pas que je faisais le janvier sans alcool, il y a certaines soirées où mon verre était rempli et où je le buvais parce qu'il était régulièrement rempli.
C'est fou parce que donc c'est plus difficile psychologiquement que physiologiquement au fond. C'est-à-dire vous pouvez vous en passer facilement, mais c'est difficile de dire non.
C'est difficile socialement, c'est difficile psychologiquement. Et quand on a compris ça, on regagne un peu de liberté. Et je vous dis, dans les études qui ont été faites, à 6 mois, les gens boivent un peu moins parce qu'ils se sont rendus compte des verres automatiques, dont ils se disent qu'ils peuvent se passer, des petits bienfaits qu'ils en ont obtenus et de la pression. Et ils ont appris à y résister un peu.
On a cette auditrice qui s'appelle Hélène et qui dit qu'elle va essayer le mois de janvier, mais qui nous dit « J'ai 46 ans, je bois chaque jour 3 ou 4 verres de vin en rentrant chez moi pour me détendre et pour faire baisser l'anxiété. Je me sens en difficulté, dit-elle, je me sens dépendante, pour utiliser le mot. Mon entourage, mon médecin, même un addictologue, dit-elle, que j'ai consulté, tous minimisent clairement la situation. Je me sens en difficulté, mais je me sens bien seule. Je vais tenter le défi, je ne suis pas sûre d'y réussir. » Est-ce que le mois de janvier sans boire, c'est quelque chose pour Hélène
au fond? Oui, naturellement, c'est exactement pour elle. Le mois de janvier sans alcool, ça n'est pas pour des abstinents. Évidemment, c'est pour des gens qui, dans la vie ordinaire, Michel, moi, peut-être moins que cette dame, nous buvons. Et nous voulons essayer de voir si on peut boire moins, si on peut ne pas boire. Et par conséquent, pour se régler ensuite. Cette dame a un haut niveau de conscience. Mmh. Quoi que lui disent ses médecins, son entourage, elle sait qu'elle est un peu dépendante. Et qu'est-ce que c'est que la dépendance ? C'est évidemment l'abandon de la liberté. Est-ce que on peut accepter réellement d'abandonner sa liberté parce que on sent que l'on est dépendant de ce à quoi on ne peut pas échapper? On dit, ensemble, on va essayer de vous permettre d'y échapper. C'est-à-dire de gagner de la liberté. On y va, allez, chiche.
Elle sera soutenue parce que on a ouvert, sans moyens, mais avec les bonnes volontés de toutes les associations, on a ouvert une page Facebook, un groupe Facebook, et elle ne sera pas seule.
On va faire des événements aussi.
Et si elle pose un certain nombre de questions, et si elle se rend compte que c'est difficile, on lui proposera d'aller vers des groupes de soutien, voilà. Des groupes de soutien virtuels. On lui proposera aussi des consultations et l'accès à des associations d'entraide. Mais on a maintenant, avec les réseaux sociaux, la possibilité de faire des groupes dans lesquels ce genre de situations sont traitées tranquillement, en regardant ce qui est difficile et en étant dans un groupe qui soutient. Ça, on l'a fait sur le portail Addicted dont je m'occupe. On a un forum d'entraide. On orientera vers des groupes Facebook de soutien et évidemment vers les associations en présence.
Et nous, à la Ligue, on va demander à des gens qui ont relever le défi, semaine après semaine, de venir témoigner. Eh bien, j'invite cette dame qu'elle vienne témoigner. On l'accueillera avec grande joie.
Eh bien, écoutez, tant mieux. Ça va s'appeler comment, le groupe Facebook, pour qu'elle sache, Hélène et d'autres, d'ailleurs, où aller directement avant d'être redirigée par ailleurs?
C'est Dry January.
Dry. Ah, vous le faites en anglais, alors? Vous ne faites pas le défi de janvier?
Non.
Il y a une marque déposée. ou le défi de janvier.
C'est parce que c'est la même chose. Dry January, voilà. Le défi de janvier, elle arrivera au même endroit. Avec ces deux. Non, ce qu'on ne fait pas, c'est janvier sans alcool qu'avait prévu la Santé publique France parce que ça rendait encore plus perceptible, ça ouvrait plus la porte aux critiques de ils veulent nous interdire de boire.
Voici Laurent, dont je ne peux pas ne pas lire le témoignage, qui dit est-ce qu'on peut au moins arrêter de nous prendre pour des gamins avec toutes ces interdictions, conseils de prévention morale, hygiène de vie, hygiène de pensée? Bientôt, on nous interdira de mourir, foutez-nous la paix, la voiture est mortelle, le travail est mortel.
Est-ce que je peux répondre à Laurent?
La vie est mortelle, ouais. Mais je vous en prie, acceptez.
Laurent, vous avez tout à fait le droit de dire cela, et donc moi, j'ai le droit, parce que je suis médecin, parce que je connais les dangers de l'alcool, j'ai le droit d'infirmer. Et les gens, après vous avoir entendu vous, après m'avoir entendu moi, ils choisiront. C'est ça qu'on appelle la liberté, voyez-vous. Laurent, je suis pour la liberté.
On voulait nous interdire de faire ça, alors que Laurent, il fait ce qu'il veut. Ça m'est complètement égal.
Et c'est ça qui est...
Si d'autres veulent faire un peu différemment, parce qu'on pense que c'est mieux pour eux, eh bien qu'ils les laissent faire. Lui, il continue.
Et c'est ça qui est assez intéressant quand même dans cet échec, on va dire, de le faire avec les moyens du gouvernement, etc. C'est que on a l'impression que vous interdisez. Mais non, personne n'aura un flingue sur la tempe, rassurez-moi.
Encore moins. Je voudrais insister sur un point qui est vachement intéressant. C'est que c'est la première fois que ça se passe comme ça. Il y a une grande cause de santé publique qui est la lutte contre l'alcoolisme. Normalement, c'est à l'État de montrer l'exemple. Là, pour des raisons que l'on connaît, il n'a pas voulu. Eh bien, la société civile considère que notre santé, ça nous intéresse, et elle reprend le flambeau. Ça, c'est un événement historique, je crois.
Ça s'appelle le défi de janvier. Merci beaucoup, merci de votre présence au téléphone sonne. Merci à tous pour vos nombreux appels, et portez-vous bien sur France Inter.